Vraiment très heureux d'être parmi vous et je suis tout à fait sensible à l'accueil que vous nous avez réservé, la gentillesse de votre accueil. Vraiment, vous êtes une communauté très très belle. Et bien sûr, beaucoup ne peuvent pas assister compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Mais en tout cas, ceux qui y sont, c'est avec plaisir que nous vous rencontrons et que nous voulons partager quelques bénédictions ensemble. Donc, merci à Michel pour toute cette présidence et ses chants en particulier, Amazing Grace, qui m'a fait vraiment plaisir de l'écouter et de voir la force des paroles à travers ce chant composé par John Newton que tu as déjà signé. Alors, nous habitons Menton depuis pratiquement une quinzaine d'années, hein, mon épouse et moi, et mon épouse travaille à Monaco et moi-même à Menton. Et puis, je suis engagé dans une petite église de l'Action biblique à Nice. Mais je fais de mon mieux pour contribuer à son développement, notamment dans l'enseignement. Alors, aujourd'hui, c'est avec joie que je voudrais vous entretenir sur un texte de l'Évangile que nous trouvons en Jean, chapitre juste ici, hein, à droite. Hein. Voilà, très bien, voilà. Donc, quelques versets, le verset 1, et je lirai les versets, effectivement, 25, 24 et 25. Donc, chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché ?» Lui ou ses parents, ou qu'il soit né aveugle. Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et les versets 24 à 25, nous lisons ceci. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il faut se rappeler le contexte dans lequel notre récit s'inscrit. La maladie, l'infirmité, le handicap était considéré comme une punition divine. D'où la question des disciples. Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? Donc on établissait un lien direct entre la maladie, la souffrance et le péché. Et Jésus va répondre en ces termes, personne n'a péché. Cela n'a rien à voir avec une faute commise antérieurement. S'il est aveugle, c'est pour que justement Dieu manifeste sa puissance. Et d'ailleurs, au verset 25 que nous venons de lire, il est affirmé, c'est une foi, c'est une confession de foi qu'exprime l'aveugle né. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ce verset, comme il a été rappelé, a été popularisé par le merveilleux chant Amazing Grace, l'une des hymnes chrétiennes les plus célèbres au monde, composée par ce fameux John Newton. Si nous connaissons ce chant, très bien, nous connaissons un peu moins bien le compositeur. Alors il est utile de rappeler rapidement, ou encore de retracer rapidement, l'histoire de cet homme, de ce compositeur. Il s'appelle effectivement John Newton, à ne pas confondre avec Isaac Newton, c'est pas la même trajectoire ni le même destin. Il est né à Londres en 1725, grandit dans une famille d'officiers, puisque son père est officier de marine, il traverse un peu la Méditerranée, il fait de commerce en Méditerranée, et sa maman est une jeune croyante pieuse, mais malheureusement qui va décéder prématurément, tandis que John Newton, son fils, n'avait que 6 ans. Donc John Newton grandit sans l'assistance de sa mère, sans l'affection de la mère, mais au contraire avec la fermeté du père, puisque le père souhaite que John Newton suive ses traces, devienne un marin, un officier de la marine. D'ailleurs, dès l'âge de 11 ans, on découvre John Newton déjà sur des bâtiments de la commerciaux sur la Méditerranée, et à l'âge de 18 ans, son père le met en apprentissage près d'un capitaine de navire, et c'est là qu'il fait tout son apprentissage. Mais à 18 ans, il obtient même le grade d'aspirant de la marine et il intègre la Royal Navy, et, hein, très très important à cette époque. Mais le jeune Newton se révèle comme étant un homme qui a un caractère rebelle, réfractaire, et surtout, il est orgueilleux. Un jour, le capitaine d'un vaisseau l'envoie à terre sur une chaloupe pour surveiller des malins, mais des marins susceptibles de déserter. Peine perdue, John Newton devient lui-même déserteur. Mais cette première désertion se solde par un échec. Newton est arrêté, emprisonné, déshabillé publiquement et fouetté. C'était la pratique de l'époque, hein, nous sommes, n'oublions pas, au XVIIIe siècle. Il perd son grade d'aspirant pour devenir un simple marin. C'est bon pour son orgueil. Première. Quelques années après, on le retrouve sur un navire négrier où il entretient de mauvaises relations avec le capitaine. Il arrive à se sauver et on le retrouve en Sierra Leone. Dans ce pays, il réussit à se faire embaucher comme intermédiaire de la traite par un marchand d'esclaves. Mais une fois de plus, son sale caractère le pousse à entrer en conflit avec son employeur. Celui-ci ne tarde pas à le réduire en esclavage. John Newton se trouve enchaîné, maltraité, affamé et raillé. En 1747, un capitaine d'un vaisseau accoste en Sierra Leone et demande pour lui. Mais lui, il ne veut pas partir, il veut toujours rester en terre d'Afrique pour continuer son commerce. Et pour le convaincre de rentrer à Londres, le capitaine lui fait croire qu'il aurait hérité d'une grosse fortune et qu'il doit rentrer pour faire valoir son dû. Et bien évidemment, l'argent le pousse à embarquer immédiatement dans le navire pour pouvoir espérer rentrer en possession de son dû, de sa fortune. Mais le 21 mars 1748, alors que le bateau censé le ramener à bon port affronte une violente tempête. Et là, John Newton se met à prier et demander à Dieu de le secourir. Il paraît que Dieu ait entendu sa prière en calmant la tempête. Et John Newton arrive à la conviction que Dieu est intervenu miraculeusement en sa faveur. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va faire la promesse de ne plus retourner en Afrique et de réformer sa conduite. Promesse qui ne sera pas tenue, puisque John Newton va devenir capitaine de navire négrier et se lance corps et âme dans le commerce de la traite négrière au XVIIIe siècle. C'est une démarche contradictoire, mais Newton va vivre cette contradiction pendant plusieurs années, puisqu'on compte à son actif pas moins de 3 voyages en qualité de capitaine négrier. Il ne remet pas en question ses activités que l'on peut qualifier à juste titre d'infâme négoce. Bien au contraire, il considère sa carrière de capitaine comme une vocation inspirée par Dieu. Son christianisme fonctionne comme un écran prophylactique qui l'empêche de voir l'inhumanité de sa profession. En langage métaphorique, on pourrait dire que s'il s'est échappé d'Égypte, force est de constater qu'il travaille encore pour Pharaon. Mais au fil du temps, John Newton commence à ressentir d'intenses remords à cause de sa participation à la traite des esclaves. Il se rapproche des mouvements abolitionnistes, en particulier de ce fameux William Wilberforce, dont vous avez sans doute entendu parler, un abolitionniste convaincu et très actif dans le combat en faveur de la suppression de la traite. En 1750, John Newton fait l'expérience d'une conversion authentique cette fois-ci. Et cette expérience le conduit directement vers un ministère pastoral dans une petite église de Londres, et charge qu'il va exercer pendant près de 16 années. Et la chanson, connue sous le titre d'Amazing Grace, est devenue l'une des plus célèbres de tous les temps. C'est un hymne abolitionniste britannique luttant contre l'esclavage et qui exprime en même temps l'expérience spirituelle de John Newton. Il compose ce fameux cantique dans lequel il revient sur son passé esclavagiste. Il se définit comme un misérable, a witch like me, un aveugle qui a été gracié par le Seigneur. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il ne voyait pas auparavant l'horreur de ses actes. Il ne voyait pas qu'il privait des êtres humains de leur liberté. Il ne voyait pas qu'il arrachait des membres d'une famille de leur terre, de leurs coutumes, de leur histoire, de leurs croyances. Il ne voyait pas qu'il les maltraitait à bord de son navire négrier. Il était aveugle lui-même. Il était aveugle du péché. Et son cantique est une confession de foi, une demande de pardon à Dieu. Un misérable comme moi, je ne voyais rien. Et voyez-vous que son expérience peut être aussi la nôtre. On ne voit pas toujours le mal qu'on commet. On ne voit pas toujours le mal qu'on peut infliger aux autres. Et nous avons un bel exemple à travers la petite histoire que Nathan raconte à David. Voyez, hein, une histoire. Nathan, vous savez que David a une conduite coupable et il n'a pas vu la grossièreté, la méchanceté de son action. Bien au contraire, il dormait pendant un bon moment avec les poings fermés. Eh bien, Dieu envoie Nathan vers lui pour lui raconter une petite histoire. C'est ça que j'aime l'histoire. Il raconte une petite histoire, finalement, destinée à le faire réagir, à ouvrir ses yeux sur le mal qu'il vient de commettre et dont il n'en est même pas conscient, même pas affecté dans un premier temps, comme John Newton, par exemple, hein, plus tard. Eh bien, cette petite histoire lui rappelle, mais voilà, il y avait dans un village un homme extrêmement riche. Il avait des troupeaux, il avait même des concubines en grand nombre, il avait des richesses, la gloire, tout ce qu'il fallait. Eh bien, il y avait un petit homme qui n'avait rien du tout, rien, pauvre. Eh bien, tu sais qu'est-ce que cet homme riche a fait? Eh bien, il a voulu prendre l'unique brebis de l'homme pauvre pour lui. Mais David, il est outré. Il est scandalisé par le comportement de cet homme. C'est pas normal, cela. Eh bien, que cet homme soit vraiment arrêté, emprisonné, et qu'il restitue au poids de lupe ce qu'il a pris à ce jeune, à ce pauvre. Eh bien, Nathan ne va pas tarder à lui dire, tuez cet homme, David. Ainsi parle l'Éternel. Pas le temps de réagir. Vous savez comment la parole vient avec une force tonitruante pour l'interpeller, pour le bousculer dans sa zone de confort, hein, dans laquelle il était parfaitement installé. Eh bien, David va enfin voir la réalité et la grossièreté de sa conduite. Il était aveugle, prêt à réagir contre l'autre et à le punir avec une extrême sévérité. Il voyait la poutre dans l'œil de son prochain, mais il ne voyait pas la paille de son œil. Et pendant un moment, il a sciemment oublié qu'il était adultère et meurtrier. Il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux sur sa faute, sur sa transgression, qu'il l'admette, qu'il le confesse et en soit pardonné. Et la confession de David figure dans les psaumes 32 et 51. Nous n'aurons pas le temps de lire quelques passages, mais vous verrez l'intensité de la repentance de David. Mais crime, d'ailleurs il qualifie de crime la conduite, hein, sa conduite coupable. Et c'est un témoignage bouleversant d'un pénitent que nous trouvons dans les psaumes 32 et 51. Alors, l'histoire de David, celle aussi de John Newton, nous interpelle. Sommes-nous sûrs de voir clair? Nous sommes aveugles tant que nous ne voyons pas la grandeur de Dieu telle qu'elle se manifeste envers nous. Nous ne voyons pas tant que nous ne nous convertissons pas à l'Évangile de Jésus-Christ. Et même après notre conversion, nous avons besoin de voir ce que Dieu nous montre. Ouvre mes yeux pour que je voie la grandeur de ta majesté et de ta magnificence. Bien souvent, nous refusons de voir la réalité et tout cela pour ne pas changer, pour ne pas nous remettre en question. Et revenons à notre aveugle. Une fois qu'il a été guéri, une fois qu'il a recouvré la vue, on peut légitimement se poser la question, que voit l'aveugle après sa guérison? Eh bien, répondons, cet homme voit le monde tel qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Quelle merveille, quelle grâce! On peut imaginer la joie de cet homme. Il était mort, mais maintenant il vit. Il mendiait sa nourriture chaque jour, maintenant il peut la gagner à la sueur de son front. Il découvre la bonté de celui qui l'a guéri. Il ne le connaît pas encore personnellement, mais il sait une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Mais maintenant, cette conjonction de coordination qui montre un changement significatif dans la vie de cet homme. Je vois, je reconnais que je suis l'objet de l'amour d'un Dieu infiniment bon, plein de compassion et miséricordieux. Voilà ce que je vois, voilà ce qu'il voit. Je ne sais pas si vous avez suivi le procès de Derek Chauvin, le policier de Minneapolis qui a étouffé George Floyd. Le verdict a été prononcé à la fin du mois dernier. Un procès qui aura duré pendant 3 semaines et couvert par toutes les grandes chaînes de télévision américaines. Et Chauvin a été trouvé coupable sur les 3 chefs d'accusation, meurtre au second degré et au troisième degré, et homicide volontaire avec un usage excessif de la force. Et ce qui a grandement contribué, me semble-t-il, à la condamnation de Derek Chauvin, c'est le regard qu'il portait aux spectateurs qui dénonçaient cet usage exagéré de la force employé contre un homme menotté et qui ne représentait aucun danger. Mais le policier semblait nier l'humanité de celui qu'il maintenait sous son genou. Il ne voyait pas le mal qu'il commettait. Il ne voyait pas l'indignation que son comportement soulevait. Il a pensé qu'avec son badge de policier, que tout était permis. Peut-être n'a-t-il pas vu la portée raciste de son acte dans un pays aussi divisé que ne le sont les États-Unis d'Amérique actuellement. Que Dieu nous aide à voir clair, mes chers amis, parce que bien souvent, on ne voit pas ce qui pourtant nous interpelle, qui nous crève les yeux. Dieu voit les erreurs que nous pouvons commettre. Mais quelqu'un me disait, depuis un certain temps, j'avais entendu une prédication à ce sujet, c'est vrai que Dieu bénit nos erreurs. Nous commettons tous des erreurs, vous et moi. Et Dieu les bénit. Ce que Dieu ne bénit pas, c'est l'infidélité, notre infidélité à sa parole. Et Dieu se propose de corriger nos erreurs parce que nous ne sommes pas infaillibles. Il est-il précisé dans le livre d'Ézéchiel, le réparateur des brèches. C'est lui qui répare ce qui a été abîmé, ce qui a été travesti, c'est Dieu qui le répare. Dieu voit nos douleurs, il voit aussi nos souffrances. Il voit en ce moment la peine que nous traversons à l'échelle mondiale liée à la pandémie que nous subissons. Il intervient d'une manière ou d'une autre dans notre existence. Souvenez-vous de l'histoire de Agar, voyez cette esclave de Sarah. Bien, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la retracer ici puisque le temps qui nous est imparti avance vite. Mais une chose est sûre, c'est que Agar est chassée par sa maîtresse Sarah et s'enfuit dans le désert. Et on pourrait même dire Agar s'égare dans le désert. Il n'y a plus personne. Elle est complètement désespérée. Et Agar doit son salut à l'intervention du Dieu vivant et bon. Dieu la voit dans le désert, est-il précisé. Et le texte est vraiment assez clair à ce sujet, puisque vous avez au chapitre 16, vous lirez le chapitre à la maison, et vous lirez également le chapitre 21 à partir du verset 8. Deux textes où l'histoire d'Agar nous est rapportée. Bien, Dieu la voit dans le désert. Là où personne ne voit Agar, Dieu la voit. Dieu voit sa désespérance et Dieu s'approche d'elle par l'intermédiaire de son ange et lui parle. Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Et c'est assez intéressant de remarquer que Agar répond à la première question. Elle répond, d'où viens-tu? Eh bien, elle répond à cette question-là. Mais ne répond pas à la deuxième question, où vas-tu? Parce que précisément, elle ne sait pas où elle va. Elle ne peut pas répondre à une question dont elle n'a pas la réponse immédiate. Je sais que je fuis ma servante Sarah qui vient de me chasser, voilà toute ma peine, ma douleur, mais où vais-je? Je n'en sais strictement rien. Mais Dieu voit et entend. Et c'est précieux, puisque Agar va faire cette expérience absolument éblouissante de Dieu. Dieu voit sa détresse et Dieu ne reste pas insensible à la détresse d'Agar. Dieu ne reste pas insensible à sa souffrance, à sa douleur, à son découragement, à son désœuvrement. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Dieu connaît nos craintes, Dieu connaît nos défaillances comme l'exprime ce cantique. Il connaît nos chutes de chaque jour. Il sait parfaitement ce dont nous avons besoin et nous le donne au moment venu. Il saura nous montrer sa bienveillance. Oui, la bienveillance de l'Éternel dure à toujours, est-il précisé. Et Agar s'exprime en ces termes. Le texte en français, me semble-t-il, ne rend pas la traduction correctement, puisque je lis au chapitre 16, verset 13, « Elle appela l'Éternel, lui qui avait parlé, du nom de Atta El Wai. Car, dit-elle, ai-je rien vu après qu'il m'a vu ?» Vous voyez, hein? Mais une autre traduction que je trouve beaucoup plus intéressante, c'est tirée de la New International Version, « Je vois maintenant le seul qui me voit. » Je vois maintenant le seul qui me voit. Et ça, je trouve encore beaucoup plus fort. Et c'est une confession de foi. Dieu nous voit, mes chers amis. Agar exprime sa confession de foi dans le nom qu'elle donne au puits, l'Aï El Waï, le vivant qui me voit. Dieu nous voit tel que nous sommes. Rien n'échappe à son regard. Il sait de quelles pattes nous sommes formés. Nous sommes son peuple et le troupeau que sa main conduit. Alors, quel regard avons-nous de Dieu? Quel regard portons-nous sur notre Dieu? Est-il un Dieu qui est inaccessible pour moi? Est-il un Dieu lointain et silencieux, comme le signale l'ouvrage de Ralph Challis? Non, il n'est ni lointain, ni silencieux. Dieu m'invite ce matin à changer le regard que je porte sur lui-même. Il est mon Dieu et mon roi. Il est le Tout-Puissant, celui qui est capable de faire au-delà même de ce que je peux croire et espérer. Et quel regard je porte sur l'autre, sur mon prochain? L'autre n'est-il pas celui que je suis appelé à soutenir, à accompagner, à aimer? Comment je vois mes frères et sœurs dans l'assemblée que je forme et dans laquelle je me réunis. Quel regard je porte sur mon église locale? Mon regard est-il indifférent? Que puis-je faire concrètement pour contribuer au développement, au rayonnement de mon église locale? Est-ce que je vois son potentiel? Je vois aussi peut-être des freins. Comment vais-je réagir pour moi-même contribuer au développement de mon église locale? J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Est-ce que je vois ce qu'il y a à faire ici même dans ma paroisse? Des fois, je suis aveugle, je ne vois rien, je ne vois rien à faire. Je ne vois aucun service dans lequel je pourrais légitimement m'engager. Que Dieu m'ouvre les yeux pour que je voie et que je contribue à l'avancement de son œuvre ici-bas. Et pour conclure, je dirais que c'est avec cette vue retrouvée et renouvelée que nous pourrons combattre toutes les formes d'injustice. C'est avec cette vue retrouvée et renouvelée que nous pourrons célébrer notre Seigneur, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est avec cette vue retrouvée et renouvelée que nous pourrons être véritablement des enfants de lumière et briller dans le monde par nos œuvres bonnes qui témoignent de la réalité et de la véracité de notre conversion. En guérissant cet homme, Jésus l'a remis debout, entièrement, lui qui était assis et qui quémandait sa nourriture, le Seigneur l'a relevé. Puisse-t-il faire ainsi pour nous? Dieu l'a relevé, Jésus l'a relevé entièrement et lui a permis de faire face au réel de sa propre existence. De même, le Seigneur avance vers nous et nous rencontre sur notre chemin. Il porte un regard renouvelé sur nous. Les disciples ont vu à travers cet homme aveugle l'occasion de poser une question d'ordre théologique à Jésus. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle? Mais Jésus a vu plus loin. Le regard de Jésus, ce n'était pas simplement voir l'aveugle, mais il a vu la gloire de Dieu telle qu'elle sera manifestée dans la vie de cet homme. Le Seigneur nous remet debout. Il avance avec nous, non jamais tout seul. Nous ne serons jamais tout seuls. Il avance avec nous sur nos propres chemins. Il nous accompagne dans notre fragile humanité. Sa parole nous maintient éveillés et debout. Alors, mes chers amis, puisse Dieu ouvrir nos yeux pour que nous contemplions sa gloire et que nous puissions dire comme l'aveugle: j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Ou encore comme le prophète Ésaïe: mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous voyions sa main dans toutes les sphères de notre existence ici-bas. Que le Seigneur soit béni. Amen.